Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. En Mauritanie, un juge a ordonné hier le placement de l'ex-président Mohamed Oud Abdelaziz en résidence surveillée à son domicile de Nouakchott, selon une décision du magistrat consulté par l'AFP. Monsieur Aziz a été inculpé en mars pour corruption, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite. Au Cameroun, deux transgenres camerounais ont été condamnés mardi par un tribunal de Douala à 5 ans de prison, notamment pour tentative d'homosexualité et outrage public aux mœurs. La peine la plus lourde, a déclaré leur avocat, qui a annoncé son intention de faire appel de la décision. Il s'agit de Loïc Djekam, alias Shakiro, très connu sur les réseaux sociaux, et de Roland Moutet, alias Patricia, emprisonné depuis février. En Algérie, la marche des étudiants prévue hier mardi à Alger a été interdite pour la 3e semaine consécutive et de nombreuses arrestations opérées. Abdourahmane Dia fera le point. La vice-présidente américaine Kamala Harris a assuré la jeune démocratie tunisienne du soutien fort des États-Unis lors d'un échange téléphonique hier avec le président Kais Saied, dont le pays lourdement endetté négocie actuellement un plan d'aide avec le FMI. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont souligné l'importance des institutions démocratiques, de l'état de droit et de la lutte contre la corruption. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné fermement hier soir les bombardements dans la bande de Gaza qui ont tué plus de 21 Palestiniens selon son communiqué. On parle maintenant de 35 morts. Il réaffirme que les actions de l'armée israélienne, y compris les évictions illégales, continuent et par la force de Palestiniens de leur foyer à Jérusalem-Est, sont en flagrante violation du droit international, lit-on dans le communiqué. L'escalade militaire entre le Hamas et Israël se poursuit ce matin avec de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza après une pluie de roquettes lancées par le mouvement islamiste vers plusieurs villes israéliennes, dont la métropole Tel Aviv et Beersheba. L'armée israélienne, qui parle de plus de 1000 roquettes depuis lundi, a indiqué avoir frappé des maisons qui appartenaient à des membres de haut rang du Hamas, qui a de son côté annoncé la destruction du QG de sa police. Le djihad islamique, deuxième groupe armé palestinien de Gaza, dont au moins 2 commandants ont péri dans des raids israéliens, a annoncé avoir mené tôt mercredi une frappe puissante contre l'ennemi avec 100 missiles tirés en riposte aux frappes sur des bâtiments et des civils. Et puis, selon des sources officielles palestiniennes, un Palestinien a été tué dans des heurts avec l'armée israélienne dans le sud de la Cisjordanie occupée. Côté palestinien, on déplore au moins 35 morts, dont 12 enfants, et au moins 230 blessés selon le ministère de la Santé à Gaza. En Israël, 5 personnes ont été tuées au total et des dizaines d'autres blessés selon la police et les services de secours. La communauté internationale a appelé au calme et une autre réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce mercredi à huis clos. En Inde, le bilan des morts du Covid-19 a maintenant dépassé les 250 000. Le variant dans ce pays a été découvert dans 44 autres pays, selon l'OMS. Et les appels à l'aide pour des vaccins se multiplient dans le monde, a affirmé le président américain Joe Biden, réaffirmant sa promesse d'aide. On va essayer, a-t-il dit, sans livrer de chiffres ni de calendrier, et en martelant sa volonté de donner la priorité aux Américains. La peur d'une pénurie d'essence après le piratage informatique d'un important réseau d'oléoducs aux États-Unis a provoqué mardi de longues files d'attente dans certaines stations d'essence, poussant le gouvernement à lever temporairement des normes anti-pollution pour faciliter l'approvisionnement et éviter la panique. L'Égypte a mis au jour quelque 250 tombeaux vieux de 4200 ans dans la province de Sohad, dans le sud du pays, a annoncé mardi le ministère des Antiquités. suite de nos informations, en Algérie, les autorités ont interdit la marche des étudiants prévue hier pour la troisième semaine consécutive. Elles ont aussi procédé à de nombreuses arrestations. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme accuse le gouvernement de dérive. Le ministère de l'Intérieur décide de mettre à exécution sa décision autoritaire. Il interdit les marches et procède à plusieurs arrestations à Alger, à Tizi Ouzou et à Béjaïa, a indiqué Saïd Salhi, soulignant que la marche des étudiants a été interdite et réprimée. Il a aussi déploré des interpellations d'étudiants, de militants, de journalistes et de photographes. Pour Reporters sans frontières, la répression s'intensifie car 5 journalistes ont été brièvement arrêtés avant d'être relâché. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit hier de plus en plus préoccupé par la situation en Algérie où des droits fondamentaux comme les droits à la liberté d'opinion et de réunion pacifique continuent d'être attaqués. Des élections législatives anticipées et rejetées par le Hirak sont prévues le 12 juin.
Plusieurs dizaines de milliers d'Éthiopiens musulmans se sont réunis mardi soir sur la plus grande place de la capitale Addis Abeba pour la rupture du jeûne du Ramadan et ont prié pour la paix. Compte rendu de John Linden.
L'événement, le premier du genre à Addis Abeba, a été organisé alors que le pays se prépare à des élections générales. Le 4 novembre dernier, le premier ministre Abiy Ahmed a lancé une opération militaire d'envergure au Tigré pour en déloger les autorités dissidentes du Front de libération du peuple du Tigré, qui a dominé la vie politique éthiopienne pendant près de 30 ans. Le mandat d'Abiy Ahmed a été marqué par une recrudescence de violences politico-ethniques, souvent motivées par des différends territoriaux, et les élections du 5 juin s'organisent dans un climat très tendu. Les musulmans représentent environ un tiers des quelques 110 millions d'Éthiopiens, les chrétiens orthodoxes comptant pour une grande majorité de la population.
Les allocations chômage versées ici aux États-Unis pour faire face à la pandémie de COVID-19 ont permis à des millions de familles de rester à flot, mais elles font désormais polémique, au point que certains États républicains les ont supprimées. Le président Joe Biden a rappelé qu'elles seraient retirées aux chômeurs qui ont refusé un emploi. Précision de Jacques Aristide.
Les républicains fustigent depuis un moment ces aides du gouvernement fédéral. $300, c'est-à-dire près de 150 000 francs CFA par semaine, accordés à tous les chômeurs. Pour les républicains, ces allocations incitent à rester à la maison plutôt qu'à chercher un travail. Seulement 266 000 emplois ont été créés en avril dernier, bien loin du million prévu par les analystes. Le gouverneur républicain de l'État du Mississippi, Tate Reeves, a donc décidé d'y mettre un terme, rejoignant l'Alabama, l'Arkansas, le Montana, la Caroline du Sud, qui ont réduit ou supprimé ces aides supplémentaires. Le président démocrate Joe Biden assure que le lien entre ces aides et la pénurie de travailleurs n'est pas si évident. Pour beaucoup de ces personnes, dit-il, les allocations chômage sont un filet de sécurité. Il avertit toutefois que la loi est claire. Si vous touchez une allocation chômage et que l'on vous offre un emploi convenable, vous ne pouvez pas le refuser et simplement continuer à toucher le chômage, ajoute Joe Biden, qui concède quelques exceptions liées au coronavirus afin que les gens ne soient pas obligés de choisir entre leur sécurité et un salaire. Quelques 16,6 millions d'Américains qui ont touché une aide début avril doivent prouver qu'ils recherchent activement un emploi pour continuer à en bénéficier. L'État du Montana offre $1 200, près de 600 000 francs CFA, aux chômeurs qui acceptent un emploi.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Mozambique a reçu $100 millions de la Banque mondiale pour un projet de relèvement d'urgence dans le nord où des centaines de milliers de Mozambicains ont été déplacés par une insurrection djihadiste. Le gouvernement mozambicain a signé un accord de financement qui fait partie d'un plan triennal de $700 millions avec le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet qui supervise le programme. Le travail au noir représente plus de 70% de l'emploi total dans les pays émergents, selon un rapport de la Banque mondiale publié mardi, qui explique que cela freine la reprise de leurs économies. Selon l'institution, si les gouvernements n'adoptent pas un ensemble de mesures politiques pour y faire face, la reprise économique après la récession provoquée par la pandémie sera compromise. Pour terminer, les membres de l'Organisation mondiale du commerce devraient pouvoir s'entendre sur l'interdiction des subventions à la pêche illicite avant la réunion ministérielle fixée mi-juillet. Les négociations commencées il y a 20 ans butent sur plusieurs désaccords, dont l'exigence de l'ONU qui veut que les pays moins avancés et ceux en développement bénéficient d'un traitement spécial, ce que refusent les États qui craignent que la Chine passe entre les mailles de l'accord car elle se classe dans la catégorie des pays en développement et possède l'une des plus grandes flottes de pêche.
Merci Nanit. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, l'Afrique va vibrer à partir du 16 mai au rythme de la Basketball Africa League, une compétition créée par la NBA en partenariat avec la FIBA Monde. 12 équipes s'affronteront dans la Kigali Arena pour le tout premier trophée de la balle qui prendra fin le 30 mai. Nous vous les présenterons tout au long de la semaine. Bagassi Koura nous dit qui sont les Sénégalais de l'AS Douane qui participent à cette balle.
Oui, créée en 1980 à Dakar au Sénégal, l'association sportive des Douanes compte 9 titres de champion du Sénégal, dont 4 consécutifs de 2016 à 2019. Depuis 2016, son coach Mamadou Gueye est nommé meilleur entraîneur chaque année. L'équipe a une longue histoire de joueurs sélectionnés pour représenter l'équipe nationale du Sénégal dans des compétitions internationales. La nouvelle recrue américaine, l'ailier Chris Coquelet, a rejoint ses coéquipiers début mai et sera aux côtés de l'ailier fort Papa Diop, un autre joueur à suivre de près. En plus de Chris, les Gabelous, comme on les surnomme, ont engagé 2 autres joueurs, l'Égyptien Hassan Atia et l'international sénégalais Pape Modou Mbaye. L'objectif de l'AS Douane à cette balle, figurer dans le top 8 après 17 ans d'absence de la scène continentale.
Le Mali est aussi représenté dans cette balle avec l'AS Police, Nanit Talani.
Arborant fièrement les couleurs bleues, jaunes et blanches, l'AS Police, une équipe de basketball de la capitale malienne Bamako, s'est hissée au sommet du podium national en 2019, remportant le championnat du Mali avec un score parfait de 9 victoires, 0 défaites. Un titre qui lui a permis de disputer les qualifications pour la balle et arracher son ticket, le dernier disponible, après s'être imposé à Yaoundé face à Abidjan Basketball Club. Si l'AS Police a surclassé le championnat malien ces dernières années, alignant 2 titres 2019 et 2020, l'entraîneur Moussa Sogoré et le capitaine Samaki Badra savent qu'ils jouent gros, eux qui viennent d'un pays réputé de basketball.
Toujours en Afrique de l'Ouest, le Nigeria se présente à cette balle avec les Rivers Hoopers. Michel Joseph.
Les Nigérians de Rivers Hoopers sont basés à Port Harcourt. Fondée en 2009 sous le nom de Royal Hoopers, l'équipe joue dans le Premier League nigériane depuis sa création. Les Hoopers ont remporté le championnat national à 3 reprises avec des titres consécutifs en 2011-2012. Leur dernier sacre remonte à 2019. Ils sont sous les ordres de l'entraîneur Ogo Odaudu et la responsabilité de leur capitaine Belema Alamina. Les Hoopers ont signé l'ancien arrière de la NBA, Ben Uzo, ainsi que le duo américain Terrence Sullivan et Chris Daniels. Les Hoopers affrontent les Patriots du Rwanda en match d'ouverture de la Basketball Africa League.
Merci Michel.
Merci Yacouba.
Bienvenue à vous, chers auditeurs. À partir de la semaine prochaine sur VOA Afrique, nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain. VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres seront diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pourrez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer. À vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA Afrique et nos radios partenaires.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, à votre compagnie Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ce jeudi, la majorité des musulmans du Sénégal vont célébrer l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois du Ramadan, communément appelé Korité dans la région. Une fête marquée par la conjoncture accentuée par la pandémie de Covid-19. Comment les parents et chefs de famille comptent-ils la célébrer? De Dakar, reportage de Seydina Abagay.
Ndaye Mariam Fall est mère de famille. Elle est également vendeuse de fruits. Malgré le jeûne, elle continue de braver le chaud soleil pour subvenir aux besoins de sa progéniture. La fin du Ramadan l'oblige à redoubler d'efforts pour avoir de quoi fêter dignement la Korité avec ses enfants.
La Korité 2021 est marquée par la conjoncture, mais je rends grâce à Dieu car il y a pire. Je vais coudre des habits neufs pour mes enfants, mais je vais miser sur des tissus pas chers car les temps sont durs. Puisque ce sont des gamins, je suis obligée de les contenter. Quant à moi, je n'envisage pas de coudre une tenue ou de faire une autre dépense.
Du côté des chefs de famille également, l'heure est à l'austérité. Serigne en est conscient et il projette de célébrer la Korité dans la sobriété. Quand on tire le diable par la queue, il faut savoir bien gérer sa bourse, nous dit-il.
Les temps sont durs. Mon astuce pour la Korité, c'est de coudre des habits pour les plus grands. Quant aux plus petits, ils vont devoir porter leurs habits de l'année dernière. Pour le menu, j'ai acheté 2 poulets et mon épouse va faire un copieux repas avec. D'ailleurs, elle aussi n'aura pas de boubou neuf pour la fête. Je lui ai dit d'attendre la tabaski. Là, je vais lui donner de l'argent et pourra coudre un joli boubou et se faire plaisir.
Les moyens limités obligent certains parents à la retenue. Mais Fatou Sarr, elle, n'est pas de ce genre. Maman Poule, elle se plie en 4 pour ses enfants. Ils auront droit à des habits neufs et un bon repas. Cette vendeuse de légumes avoue qu'elle a de maigres économies, mais elle est prête à se sacrifier pour le plaisir de ses enfants.
Mes enfants vont porter des habits neufs. C'est le minimum que je puisse faire pour eux. Cette fête est importante à leurs yeux. Ils sont innocents et ne comprennent pas grand-chose de la situation économique, notamment de la conjoncture. L'important pour moi, qu'ils soient heureux. Nous allons bien manger. Ils seront sur le 31, comme le veut la tradition. Oui, il y a la conjoncture, mais je ne peux pas faire autre. Quant à moi, je n'ai pas de problème.
La célébration de la fête de Korité est un moment très important pour les familles sénégalaises. Elle symbolise la fin du Ramadan, un moment de communion, de paix, de partage et de festivité. Même si la pandémie de Covid-19 dicte sa loi avec une sévère crise économique, certains sont prêts à faire des sacrifices pour célébrer comme il se doit la Korité, l'une des fêtes musulmanes les plus importantes. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, le gouvernement fédéral a introduit de nouveau des restrictions face au Covid-19. Les bars, les centres de loisirs vont fermer, les rassemblements publics sont limités à 50 personnes. Un couvre-feu national de minuit à 4 heures du matin est instauré. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Craignant la situation actuelle dans 3 pays, notamment l'Inde, la Turquie et le Brésil, où il y a un nombre élevé de cas et un taux de mortalité élevé dû à une prévalence généralisée de variantes préoccupantes, les autorités nigériennes ont décidé de nouvelles restrictions pour prévenir et maîtriser efficacement la résurgence d'une phase aiguë de la pandémie de Covid-19 dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Dr Sani Aliou est le coordinateur de la commission sur le Covid-19 au Nigeria.
Nous allons maintenir les restrictions sur les rassemblements de groupes dans les lieux de travail à un maximum de 50 personnes. Les centres de loisirs, les bars, les clubs doivent rester fermés jusqu'à nouvel ordre. Les restaurants doivent prévoir une capacité d'accueil de 50% et proposer des plats à emporter.
La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé l'interdiction d'entrée sur son territoire de passagers non nigériens qui se sont rendus en Inde, au Brésil et en Turquie au cours des 2 dernières semaines en raison des préoccupations concernant la propagation rapide du coronavirus dans ces 3 pays. Autre mesure annoncée par les autorités fédérales concerne les frais à verser pour les voyageurs pour se faire administrer un test de COVID-19. Le président de la Commission nationale sur le Covid-19, Boss Mustapha, explique.
L'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a fixé les frais des tests de COVID-19, que ce soit pour un test PCR ou n'importe quelle autre forme de test, à $50 au niveau de tous les points d'entrée effectifs à partir du 17 mai prochain.
Le gouvernement fédéral impose aussi des contrôles de température, aucune entrée dans tous les lieux publics et lieux de travail, entreprises et lieux de culte sans le masque facial. Des nouvelles restrictions qui ont suscité des questions au sein du public. Mais pour Alero Rabos, consultante en santé publique, ces mesures sont nécessaires.
C'est une préoccupation majeure pour nous qui sommes dans le domaine de la santé publique. Depuis quelques mois, nous voyons la montée en flèche des cas de contamination en Inde, ce que nous pensons être une inquiétude et une menace. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre l'Inde et le Nigeria sur le plan de la population, sur le plan du profil épidémiologique et considérant notre localisation géographique.
Le Nigeria a connu une deuxième vague de la pandémie de COVID-19, certains ayant vu une troisième vague en raison des nouvelles variantes plus contagieuses. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La justice congolaise a demandé la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics, mais les juristes congolais sont divisés sur la compétence du Sénat. Quant à la question de lever ou pas les immunités de l'ancien premier ministre Marius Muhunga.
Dans un récent rapport, l'inspection générale des finances, IGF, désigne l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo comme l'auteur intellectuel de la débâcle du parc agroalimentaire du Bukangalonzo dans le Bandundu, à 240 km de Kinshasa. L'inspection générale de finances estime que 205 millions de dollars sur 285 millions décaissés par le trésor public ont été détournés. La justice demande la levée de l'immunité du sénateur et ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, estime que la levée des immunités parlementaires doit être décidée par le Parlement réuni en congrès.
La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 de membres du Parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La mise en accusation ou la décision de poursuivre un premier ministre, même s'il est honoraire, le fait pour lequel il est poursuivi étant de fait posé ou supposé posé pendant qu'il était en fonction, il faut, au regard de ces faits-là et de la qualité du premier ministre dont il était revêtu au moment des faits, que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent se réunir en congrès et puissent voter à la majorité des 2/3 la décision de poursuite ou de mise en accusation.
Par contre, Maître Adolphe Mopotou Mogbaya, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ne partage pas cet avis.
Monsieur Matata Ponyo a été premier ministre, mais il ne l'est plus. C'est vrai que les immunités dont nous faisons allusion protègent la fonction du premier ministre et non l'individu qui a occupé les fonctions. Étant donné qu'il n'est plus premier ministre, c'était l'ancien premier ministre, il ne faut pas réunir le Congrès pour lever les immunités qui, en réalité, n'existaient plus dès lors qu'il a cessé d'être Premier ministre. Mais par contre, concernant les faits qui lui sont reprochés sur la juridiction compétente qui peut le juger, ces faits resteront les faits qui doivent être portés devant la Cour constitutionnelle par le fait que ces faits ont été commis ou auraient été commis alors que Matata Ponyo était Premier ministre. Et donc ici, je résume en disant que Matata Ponyo n'est plus bénéficiaire du privilège de poursuite et de juridiction qui sont conférés au Premier ministre en fonction, parce que l'immunité en question protège la fonction et non l'individu qui occupe la fonction.
L'ancien Premier ministre dénonce quant à lui un dossier truffé des contre-vérités. Il se dit prêt à comparaître pour se défendre.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la loi Taubira sur l'esclavage a 20 ans. Elle est la première législation à reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Plus de 170 ans après son abolition, les réparations morales et financières font toujours débat. Et son héritage reste lourd aujourd'hui.
s'enfuit, selon les activistes, avec la discrimination et le racisme. Pendant ce temps, en Afrique, la pratique de l'esclavage persiste dans certains pays, malgré son interdiction dans les textes en vigueur. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Les récents assassinats et enlèvements de journalistes au Sahel ont mis en évidence les graves risques auxquels sont confrontés les journalistes dans cette région du continent. Au Burkina Faso, deux journalistes espagnols ont trouvé la mort dans l'est du pays et l'enlèvement d'un autre journaliste français au Mali suscite encore des interrogations. Des situations qui indiquent que les journalistes font probablement face à des risques de sécurité plus importants aujourd'hui. Pour une analyse, Blanche Sanou a joint Arnaud Frogère, directeur Afrique de RSF.
Elles sont multiples, ces difficultés. On pourrait même facilement dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le Sahel est devenu l'une des régions les plus dangereuses au monde pour les journalistes. D'abord, tout simplement parce qu'il y a une grande partie de ces territoires, donc dans les trois pays principaux concernés, Mali, Niger, Burkina Faso, qui ne sont pas ou plus du tout ou très peu accessibles pour les journalistes, sans prendre, je dirais, des risques considérables pour leur sécurité. Aujourd'hui, il est très difficile. Par exemple, si vous êtes au Mali, et on l'a vu évidemment avec l'actualité récente, d'aller dans le nord ou dans le nord-est du pays. Quand vous êtes au Burkina Faso, sortir de Ouagadougou pour faire un reportage de terrain ou sortir des villages dans lesquels vous vous trouvez si vous n'êtes pas dans les capitales, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et il en est de même pour le Niger. Donc c'est un problème d'accès, c'est un problème de sécurité hein, lié aux groupes armés qui sévissent dans ces régions-là. Ce sont des problèmes aussi d'accès aux sources, puisque les sources elles-mêmes ont peur de parler aux journalistes. Donc il y a un accès à l'information qui est de plus en plus restreint et contraint, essentiellement lié à une problématique sécuritaire, à une situation sécuritaire qu'il faut bien le reconnaître, s'est dégradée depuis quelques mois.
Y a-t-il des dispositifs sécuritaires mis en place pour permettre aux journalistes néanmoins de tenter l'aventure ?
Il est toujours possible de temps en temps d'organiser un déplacement, soit avec l'armée, soit avec une mission onusienne sur place. Ça arrive de temps en temps, mais ces déplacements sont limités pour au moins deux raisons. D'une part, ça ne concerne qu'une poignée de journalistes. C'est des déplacements qui sont limités dans le temps. Et puis, pour des raisons d'indépendance, vous n'avez pas accès exactement aux mêmes choses quand vous êtes accompagné de l'armée que quand vous pouvez vous déplacer en toute liberté, de manière complètement indépendant, même si voilà, les autorités font aussi ce qu'elles peuvent par rapport à cela, ça reste évidemment insuffisant pour avoir une couverture digne de ce nom et la production d'informations indépendantes.
Est-ce que RSF tente quelques initiatives dans ce sens ou quelle est votre position en ce moment ?
La position qui est la nôtre, c'est d'encourager les journalistes et les médias à continuer à couvrir l'actualité malgré les difficultés, à le faire en responsabilité et de la manière la plus sécurisée possible. Après, ce que nous cherchons à éviter, c'est d'éviter que ne grandisse ce trou noir de l'information qui est en train de devenir le Sahel ou en tout cas une bonne partie de la région du Sahel. Donc nous, notre travail, si vous voulez, c'est à la fois d'encourager les autorités à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de sécurité pour les déplacements de journalistes et puis de faire en sorte que quand il y a des exactions qui sont commises, il y a des enquêtes dignes de ce nom qui soient menées pour éviter le sentiment d'impunité et éviter en fait que les groupes armés ne progressent, parce qu'avec la progression des groupes armés, encore une fois, progresse aussi l'absence d'informations et ça c'est évidemment une catastrophe pour les pays concernés.
Arnaud Frogère, directeur Afrique RSF.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebuya et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.